Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos. Eh ben bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2015 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, la 17e du genre. Et avec moi aujourd'hui au micro et jusqu'à la fin, la belle Christine. Bonjour Christine. D'accord, eh ben une émission entièrement consacrée aux banques à l'occasion de la sortie la semaine dernière du livre noir des banques.
Et ouais, mon petit Hervé, depuis sa création, Attaque se bat contre la finance spéculative et prédatrice dont les grandes banques sont les actrices principales. Alors après plusieurs mois d'enquête, Attaque et le site d'information Basta ont publié début février le livre noir des banques aux éditions Les Liens qui Libèrent. Chiffres et exemples à l'appui, cet ouvrage montre que les banques coûtent très cher à la société et que la collusion du pouvoir politique avec les lobbies bancaires constitue un obstacle majeur aux réformes et à la sortie de crise.
Eh bien oui, mettre les banques au service de la société, c'est l'enjeu des transformations nécessaires proposées dans ce livre noir dont cette émission va présenter les enjeux clés. Si les citoyens sont aujourd'hui conscients de la responsabilité des banques dans la grande crise qui secoue nos sociétés depuis 2008, il est plus que jamais important de se mobiliser. Alors si on écoute le discours officiel véhiculé par la plupart des médias, on nous dit que la crise est passée, que des réformes salutaires ont été mises en place, que les banques vont bien et participent activement au bien-être de la société. Et pourtant, cette vision est contraire à la réalité. Alors Christine, une première question, est-ce que nos banques sont aussi solides qu'on le prétend ?
Alors les banques françaises sont dites universelles. Je crois que c'est bien, mais pas du tout. Elles sont à la fois banques de détail tournées vers la distribution du crédit et la collecte des dépôts, mais également banques d'investissement qui utilisent les dépôts de leurs clients, le plus souvent à leur insu, pour opérer sur les marchés financiers et spéculer. Ce qui en fait des banques très risquées et gigantesques. Le bilan de BNP Paribas fait 2000 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB de la France. À la suite de la crise, les autorités bancaires ont repéré les banques dites systémiques, jugées les plus dangereuses pour la stabilité du système bancaire international, en raison de leur taille et des relations d'interdépendance existant entre elles. Et bien sur les 29 groupes bancaires systémiques dans le monde, 4 sont français. Le Crédit Agricole, BNP Paribas, la Société Générale et le groupe BPCE, c'est-à-dire Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Ce qui place la France au premier rang dans le monde, ex aequo avec la Chine. Ces 4 banques systémiques contrôlent la majeure partie de l'activité bancaire en France et font donc du système bancaire français le plus vulnérable potentiellement, donc le plus dangereux dans le monde.
Yes, Christine. Et le patronat bancaire affirme que le sauvetage des banques à partir de 2008 n'a rien coûté aux contribuables. Ça aussi, c'est une autre contre-vérité. En 2012, la Commission européenne évalue à 4 500 milliards d'euros les fonds publics mis à disposition des banques européennes, principalement sous forme de garanties, c'est-à-dire 37% du PIB de l'Union européenne, le plus souvent sans condition. Et la France ne fait pas exception. En 2008, l'État français mobilise 360 milliards d'euros pour aider les banques nationales, dont 320 milliards de garanties. C'est plus que le budget annuel de l'État français. Les prêts seront finalement remboursés par les banques. Mais 3 ans plus tard, la Banque Centrale Européenne, qu'on appelle la BCE, via la Banque de France, est contrainte de prendre le relais pour prêter à nouveau aux banques françaises en manque de liquidités, à hauteur de 232 milliards d'euros. Ce qui fait de nos banques nationales les principales bénéficiaires du soutien de la BCE, juste derrière les banques espagnoles et italiennes.
Mais si on veut évaluer le coût des banques pour les contribuables, il faut regarder du côté de la fiscalité. Et on constate d'abord que les grandes banques françaises ont un taux d'imposition sur les bénéfices de 8%, très loin du taux officiel de 33,5%, ce qui représente un manque à gagner pour l'État de 15 milliards d'euros au cours de la dernière décennie. Mais surtout, on découvre que l'une des activités les plus lucratives des banques, c'est l'optimisation fiscale pour leur compte et celui de leurs clients. Les banques françaises sont des acteurs majeurs de l'industrie de l'évasion fiscale, qui fait perdre au minimum 60 milliards d'euros chaque année au budget de la France. Ce n'est pas un hasard si BNP Paribas, championne dans ce sport, détient plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux.
Alors, du coup, on peut se demander si les banques financent encore l'économie. Aujourd'hui, en Europe, 10% en moyenne des actifs des banques sont consacrés à des prêts aux entreprises et 15% à des prêts aux ménages. Les 75% restants se retrouvent surtout en placement sur les marchés financiers. Un quart seulement des actifs des banques sert donc à financer directement les entreprises et les particuliers. En fait, les banques jouent désormais un simple rôle de courtier. Elles se contentent de distribuer les crédits, moyennant commission, qu'elles transfèrent ensuite au marché par ce qu'on appelle la titrisation, qui consiste à transformer les crédits en titres négociables. On se dirige ainsi vers le modèle états-unien qui est encouragé par les autorités françaises et européennes. Les banques initient les crédits, prennent des commissions, puis transfèrent les risques aux marchés financiers. Ainsi, les banquiers renoncent progressivement à leur fonction principale, qui est de prêter à l'économie et de gérer les risques. Par contre, ils développent leurs activités spéculatives tous azimuts. Ils se sont ainsi rués sur les produits dérivés, instruments phares de la spéculation. Et c'est à nouveau BNP Paribas qui fait la course en tête. Ces activités de marché représentent l'équivalent de 42% du PIB de la France contre 2% pour le groupe Crédit Mutuel. Ces produits dérivés représentent 23 fois la valeur du PIB.
Alors ce qu'il faudrait, c'est mettre les banques au service de la société. Les gouvernements successifs ont renoncé à faire de véritables réformes pour stopper cette dérive inquiétante. La principale mesure doit être la séparation totale des activités de banques de détail et de banques d'investissement. Les économistes sont unanimes. La loi Glass-Steagall, votée par l'administration Roosevelt en 1933... c'est pas récent, hein, a largement contribué à la disparition des crises bancaires aux États-Unis jusqu'en 1999, année où cette loi a été abrogée. Cette mesure a un triple avantage. Réduire la taille et donc le pouvoir des banques, limiter la capacité de celles-ci à spéculer avec l'argent des épargnants et renforcer la stabilité du système bancaire.
Oui, parce que assainir le monde des banquiers, c'est aussi une autre priorité. En imposant d'abord le plafonnement des revenus des traders et des dirigeants bancaires, dont les niveaux indécents sont une provocation pour le reste de la société, la gouvernance des banques doit également être réformée. Ces dernières sont exclusivement gouvernées par leurs actionnaires et des dirigeants cupides dont le seul mobile est le rendement financier. Les banques doivent être pilotées de manière démocratique par tous les acteurs concernés par leurs activités, usagers, salariés, représentants de la société civile, actionnaires, et ceux-ci doivent participer à parts égales aux instances de direction des banques. Ce contrôle social des banques est le meilleur moyen de les mettre au service de l'intérêt général. Il est également essentiel que se développent les banques coopératives, éthiques et publiques, dont l'objectif n'est pas le pur profit.
Et les banques doivent aussi contribuer au budget de l'État, au même titre que toutes les entreprises. Un système de taxation progressive selon la taille des banques, et ciblé en particulier sur les activités spéculatives, est nécessaire. La fiscalité, outil de justice sociale, est aussi un instrument efficace de lutte contre la spéculation, en taxant notamment les transactions à haute fréquence, inutiles et dangereuses. Enfin, il faut sans délai mettre fin aux pratiques d'incitation et de soutien à l'évasion fiscale, obliger les banques à rendre publiques des informations sur leurs activités dans les paradis fiscaux et judiciaires, comme le prévoit la loi bancaire de 2013, est insuffisant. Il faut interdire toute activité dans ces zones de non-droit, qui sont le cancer du système financier international.
Et à propos d'évasion fiscale, on va remonter à novembre 2014, où après analyse de plus de 28 000 pages du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, qu'on appelle PwC, le consortium international de journalistes d'investigation a jeté un pavé dans la mare avec ce qu'on a appelé l'opération LuxLeaks. L'opération LuxLeaks montre comment entre 2002 et 2010, des milliards d'euros de recettes fiscales se sont évaporés vers le Luxembourg grâce à des accords fiscaux secrets avec plus de 300 multinationales clientes de PwC. On peut citer Apple, Amazon, Vodafone ou des établissements financiers comme AXA, BNP, Crédit Agricole, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Dexia, UBS et HSBC, dont on reparle encore cette semaine avec les révélations du Monde.
Rien de nouveau, hein, malheureusement. Les démarches de contournement ou d'évasion fiscale coûtent cher, à la France notamment. 220 milliards d'euros sont cachés dans les paradis fiscaux par des Français fortunés et 370 milliards par les grandes entreprises nationales. C'est ce qu'a calculé le journaliste Antoine Payon. Le manque à gagner pour l'État français du fait de la non-déclaration des revenus générés par ce patrimoine est d'au moins 30 milliards d'euros par an. Une conclusion partagée par la mission d'enquête parlementaire sur l'évasion des capitaux qui était pilotée par le sénateur PCF Éric Bocquet en 2012.
D'autres évaluent le manque à gagner à entre 60 et 80 milliards d'euros et les sommes en jeu sont énormes. L'évasion fiscale est une véritable industrie et les banques françaises ne sont pas en reste avec des centaines de filiales dans les paradis fiscaux. Une véritable industrie de prête-noms s'est ainsi développée, permettant des montages en cascade qui brouillent les pistes. Une armée d'avocats fiscalistes, d'experts comptables et de juristes pilote les opérations. Mais la banque est toujours au cœur de tous ces rouages.
Alors, comment lutter contre ces processus qui affaiblissent les États et volent les citoyens ? Les mesures les plus radicales sont venues des États-Unis avec le Foreign Account Tax Compliance Act, le FATCA, en 2010, qui oblige les banques étrangères, à partir de 2014, à livrer des informations à l'administration fiscale états-unienne. Et il faudrait un FATCA européen. Mais les résistances sont vives. Il y a une petite avancée en 2013. Les banques françaises doivent désormais publier, pays par pays, la liste de leurs filiales et de leurs activités. Le produit net bancaire, le bénéfice et le nombre d'employés. Une mesure de transparence que la société civile demande depuis 10 ans. Ce premier pas sera-t-il toutefois suivi d'autres mesures plus ambitieuses à la hauteur de cet enjeu majeur ? En tout cas, il y a urgence, d'autant que les banques françaises, au-delà de leur participation à ce processus d'évasion fiscale, tentent aussi de réduire leurs contributions fiscales et leurs impôts ont été divisés par 2,7 en 20 ans.
Bon, allez, devant cette situation désespérante, on va arrêter de casser la cougourde de nos auditeurs. On va faire une petite pause musicale avec une chanson de François Béranger qui s'appelle « Combien ça coûte ?» Alors c'est parti.
Puisque la seule valeur qui vaille en cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouzé, les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe. La nouvelle pauvreté, faut nous dire combien ça coûte. Un kilomètre d'autoroute, un grand stade à footballer, Super Phoenix réformé. Combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la souffrance, combien ça pèse la détresse, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France. Oui, dites-moi combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exocète, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un cocktail ministériel, les grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige, combien ça coûte l'indifférence. La 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 la. « puisque la seule valeur qui vaille en cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire.
Ben, nous voilà de retour avec cette deuxième partie hein, de La Gueule Ouverte et on continue à parler des banques. C'est un peu indigeste, mais il faut aussi s'y intéresser. Hein. À l'occasion de la sortie du livre noir des banques édité par Attac et Bastamag, on va parler de deux études qui ont été menées par Attac Autriche hein, et qui révèlent que la majorité des fonds débloqués par les institutions européennes et le FMI pour enfouler les économies grecques et irlandaises a bénéficié à qui ? Au secteur financier.
Oui, parce que depuis le premier plan de sauvetage de la Grèce en mai 2010, plusieurs pays de la zone euro, l'Irlande en 2010, le Portugal en 2011, l'Espagne en 2012, Chypre en 2013, donc plusieurs pays de cette zone euro ont été contraints de passer sous les fourches codines de la Banque Centrale Européenne, la fameuse BCE, du Fonds Monétaire International, donc le FMI, et de la Commission Européenne, ce qu'on appelle la Troïka, qui sont en charge de superviser ces aides.
Et à chaque fois, la potion amère est la même. L'aide prend la forme de prêts de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour lesquels les pays contributeurs se portent garants via le mécanisme européen de stabilité, ça s'appelle le MES, pas la MES. Hein. Cette aide est conditionnée à des réformes structurelles censées permettre aux patients de retrouver un équilibre des finances publiques et la compétitivité. Alors, privatisation, coupes budgétaires, remise en cause du droit du travail, selon les promoteurs de ces plans d'aide, ces sacrifices douloureux mais nécessaires sont le prix à payer pour sauver les pays et leurs populations guettées par la faillite. Deux études publiées par Attac Autriche prennent pourtant le contre-pied de ce discours. Il s'agit en fait moins de sauver les peuples, qui paient le prix fort hein, des mesures drastiques de la Troïka, que de sauver les banques.
Et dans une première étude, Attac Autriche a analysé les 23 tranches de financement des différents plans de sauvetage de la Grèce pour un total de 206,9 milliards d'euros. Ces conclusions sont sans appel. 58,2 milliards ont servi à recapitaliser les banques grecques au lieu de restructurer ce secteur et de mettre à contribution les actionnaires des banques pour éponger les pertes. 101,33 milliards ont servi à payer les créanciers de la Grèce, ce qui signifie que ceux qui ont spéculé sur la dette grecque, dont les grandes banques françaises, n'ont pas eu à assumer les risques qu'ils ont pris. Ils ont été remboursés aux frais des contribuables européens. En tout, près de 77% des sommes débloquées pour le plan de sauvetage de la Grèce ont bénéficié directement ou indirectement au secteur de la finance, et certainement pas à la population grecque, écrasée par les mesures d'austérité.
Et la seconde étude montre qu'il en est de même pour le plan de sauvetage de l'Irlande, pourtant présenté comme un succès. L'Irlande a reçu 67,5 milliards d'euros de prêts pour son renflouement depuis la fin de 2010 et elle a transféré un montant total de 89,5 milliards au secteur financier, dont 55,8 milliards pour les seuls créanciers du pays, parmi lesquels les grandes banques françaises. La situation économique et sociale de l'Irlande demeure désastreuse, stagnation économique, chômage.
Et ces deux exemples illustrent bien le scandale des politiques de la Troïka qui sacrifient les populations pour mieux servir les intérêts des grandes banques européennes. Il est désormais plus que jamais urgent d'imposer une véritable alternative écologique et sociale en Europe et pour ce faire de s'attaquer au pouvoir démesuré de la finance.
Alors, un peu de positif maintenant. On va parler des coopératives éthiques pour donner un autre sens à l'argent. C'est le cas de la NEF, qui finance des projets d'utilité sociale ou environnementale et qui se donne aujourd'hui pour objectif d'investir sur les trois types d'argent, le capital, le prêt et le don. Dès 2016, elle pourra ouvrir des comptes courants comme n'importe quelle banque commerciale.
Alors, la NEF, dont l'activité est en constante augmentation, refuse catégoriquement la spéculation financière, l'opacité des circuits financiers traditionnels et oppose au rendement financier la plus-value écologique, sociale et culturelle. À la différence de la majorité des banques qui financent leurs opérations de prêt aux entreprises et aux ménages en se refinançant sur les marchés financiers, la NEF s'est donnée pour mission de faire de l'intermédiation entre épargne et crédit. Elle rassemble aujourd'hui plus de 30 000 sociétaires et épargnants et compte une soixantaine de salariés, dont des banquiers itinérants, pour assurer une présence au-delà de ses quatre principales agences qui sont à Lyon, Paris, Nantes et Toulouse. Un réseau de correspondants bénévoles et d'une trentaine de groupes locaux complète ce maillage territorial. Actuellement, plus de 60% des projets financés par la NEF sont liés à l'écologie, agriculture biologique, énergie renouvelable, éco-construction, 30% au secteur social, insertion au logement, commerce équitable, tourisme rural, le reste se répartissant sur des projets culturels.
Mais dis-moi, c'est là qu'il faut qu'on aille à Galère alors?
Peut-être.
La plateforme Internet, près de chez moi, lancée par la NEF à titre expérimental depuis un an en région Rhône-Alpes, s'appuie sur des collectifs d'épargnants soutenant la création ou le développement de projets économiques près de chez eux. Concrètement, l'objectif est de permettre à un entrepreneur de soumettre son projet à des dizaines de citoyens de son territoire pour le financer. Le dispositif, qui devrait être déployé au plan national en 2015, avec une garantie européenne, implique un lien fort de solidarité entre épargnants et emprunteurs, avec une jauge ou un taux solidaire donc, entre l'épargne et le prêt, permettant à l'épargnant de mesurer exactement l'effet de son épargne sur le prêt. La foncière Terre de Liens, une autre initiative de la NEF, investit dans le soutien aux agriculteurs qui veulent s'installer en agriculture bio ou qui sont respectueux de l'environnement, en les mettant à l'abri de la spéculation foncière. Le premier appel de fonds lancé en octobre 2008 a été un tel succès, 7 millions d'euros collectés en 6 mois auprès de 3000 personnes, qu'il a été régulièrement renouvelé depuis et que des initiatives similaires sont en voie de création dans d'autres pays européens.
Ben oui, on peut citer par exemple TAMA, la première coopérative européenne de finances solidaires. TAMA pour « There are many alternatives ». C'était une réponse au célèbre slogan de Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative, donc des politiques néolibérales. Alors la mission de TAMA, c'est de collecter de l'argent auprès du grand public et de l'investir en faveur de projets emblématiques de la transition citoyenne européenne. TAMA regroupe plusieurs coopératives financières, on va citer Crédal et Eftboom, qui sont deux organismes belges qui travaillent sur du microcrédit, ou Ocogeno, qui est un fonds d'investissement allemand dédié aux projets d'énergie renouvelable et de logement participatif, par exemple l'écoquartier Vauban à Fribourg. Fiare, une fondation espagnole de banque solidaire soutenue par Banca Etica d'Italie, et la NEF en France.
Alors, TAMA n'en est qu'à ses débuts, hein, puisqu'elle a réalisé ses premiers investissements à l'été 2014. Elle s'apprête à lancer une campagne européenne d'appel public à l'investissement pour financer des projets d'économie solidaire pour la souscription de parts sociales. Contrairement à la NEF, qui intervient sous la forme de prêts, TAMA a choisi d'investir sur les fonds propres, car nombre de projets démarrent avec des besoins en fonds de roulement difficiles à se procurer. Les montants en jeu, entre 50 000 et 300 000 euros, généralement, en favorisant les circuits courts financiers et en liant les investisseurs aux porteurs de projets, TAMA apportera ainsi son appui financier à des projets emblématiques de la transition en Europe, coopératives citoyennes d'énergie renouvelable, logements sociaux, participatifs et écologiques, habitats groupés, achats collectifs de terres agricoles, etc.
Bon, ben finalement, c'est pas si désespéré que ça. Bon alors, on va faire une nouvelle pause musicale et pour ne pas changer de sujet, on va écouter une chanson qui s'appelle « Parachute doré ». Alors tu vas me dire, mais t'es con Hervé, c'est quoi cette histoire de parachute doré ?
Mais t'es con Hervé, c'est quoi cette histoire de parachute doré ?
Eh ben voilà, je vais te répondre à un parachute doré. C'est le nom donné à la prime de départ que touche en partant le dirigeant de l'entreprise qui l'emploie. Rien à voir avec l'indemnité de licenciement d'un travailleur dont on ferme la boîte du jour au lendemain. Un petit exemple, par exemple, avec Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi, qui a touché 20,5 millions d'euros en 2002. Et le plus fort, c'est que ce parachute doré est considéré comme une indemnité qui s'ajoute aux indemnités légales auxquelles l'intéressé peut par ailleurs éventuellement prétendre. Et qu'elles peuvent être additionnées à une retraite chapeau, complément de la retraite légale dont le versement est étalé pendant toute la durée de la retraite du bénéficiaire. Trop fort, non ? Allez, travaux pratiques avec la chanson d'Alain Souchon, Parachute doré.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant synco. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. À moi les alizés, les vents tropicaux. Et moi, bien frisé sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure. Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts. On dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller m'épouse, on va se la cour. Les douces, la pilule, on va se l'adorer, j'ai le parachute. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu château Pétrus, encore stall en vain. Adieu les jolies putrus dans les mystères vins. Balancez les fraiseuses, les machines-outils, riez, ouvriez du joli gâchis. J'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette. Au lieu de me creuser la tête, un jour les cours ont chuté et moi la boîte à couler m'épouse, on va se la cour. Les douces, la pilule, on va se la dorer, j'ai le parachute. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu téléphone, adieu le bureau, secrétaire au talon haut. À moi les alizés, les vents tropicaux. Et moi, bien frisé sur le bateau. La boîte à couler m'épouse, on va se la cour. Les douces, la pilule, on va se l'adorer. J'ai le parachute.
Alors, on arrive maintenant à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attac Marseille. Alors, qu'est-ce que nous a contacté Attac ?
Alors, nous avons une flash mob le samedi 14 février, une flash mob autour du TAFTA, le fameux traité transatlantique en cours de négociation.
Ah ouais ? Mais c'est quoi une flash mob ?
Eh bien, ça vient d'une expression anglaise, tu devrais le savoir, toi qui en viens. De l'Angleterre, et qui signifie...
Je suis née à Marseille, moi,
ouais, d'accord, mais mead, c'est quand même English. Alors, ça vient d'une expression... Elle n'est pas contente. Ça vient d'une expression anglaise qui signifie mobilisation éclair. C'est le rassemblement d'un groupe de personnes dans un lieu public, j'espère qu'il y en aura beaucoup, pour y effectuer des actions convenues d'avance, avant de se disperser rapidement, mais pas trop quand même. Hein. Donc, pour cette flash mob... Le rendez-vous est à l'angle de la Canebière et de la rue Saint-Ferriol, à 14h15 précise. Alors, flashons le TAFTA, le samedi 14 février.
Alors quoi d'autre ce mois-ci ?
Alors un grand moment, à l'occasion de la sortie du livre noir des banques.
Dont on vient de parler.
Voilà, on n'a fait que ça même. Alors ce livre noir, coédité par Attac et par Bastamag, aux éditions Les Liens qui Libèrent, donc Attac Marseille organise une présentation commentée de l'ouvrage qui sera suivie d'une discussion avec deux de ses rédactrices. Et ça se passe le jeudi 19 février à partir de 18h au local d'Attac, 29 boulevard Longchamp.
Et il parle de quoi ce bouquin alors ?
Encore ! Mais ils n'ont rien écouté. Alors, c'est un livre enquête qui est coécrit par des journalistes et des économistes et qui évalue pour la première fois le coût exorbitant, mais passé sous silence, de leurs activités. Il fait découvrir la face obscure des grandes banques françaises, de l'évasion fiscale à la spéculation sur les matières premières, de la finance de l'ombre aux produits dérivés opaques, des projets polluants aux emprunts toxiques. Ce livre dresse un panorama complet des effets néfastes de la finance toute puissante.
Bon, ça va, hein. Alors, c'est le jeudi 19 février, à partir de 18h. C'est au local d'Attac, 29 boulevard Longchamp, dans le premier, au cas où vous n'auriez pas entendu la première fois.
Et c'est animé par deux journalistes qui ont participé à la rédaction du livre. Agnès Rousseau, qui est journaliste à Bastamag, et Isabelle Bourg-Boulon.
Et y a rien à Lumini ?
Ben oui, j'allais oublier. Une nouvelle projection le mercredi 11 mars à 20h à la cafétéria du campus de Lumini. Des projections toujours gratuites et ouvertes à toutes et à tous dans le cadre d'un cycle sur agriculture et alimentation. Alors cette fois, c'est un film qui s'appelle « La guerre des graines ». Le film nous interroge. Les graines sont-elles une marchandise ou un bien commun de l'humanité au même titre que l'eau ou l'air ? Aujourd'hui, 5 grands semenciers possèdent déjà la moitié du marché des graines et cherchent à étendre leur privatisation. L'histoire que révèle ce documentaire, c'est celle d'une guerre silencieuse, méconnue et dont l'enjeu est pourtant crucial, notre indépendance alimentaire. Et il sera suivi d'une discussion sur la souveraineté alimentaire, les semences, le brevetage du vivant, avec comme d'habitude la possibilité de se restaurer et de boire un coup sur place. Alors n'oubliez pas, c'est le mercredi 11 mars, à 20h, à la cafétéria du campus de Lumini, et c'est gratos.
Alors merci Hervé pour cet agenda musclé. En ce qui me concerne, entre le 19 février et le 11 mars, pour moi il y a le 8 mars. Et bon, je ne sais pas si Attac viendra, mais moi le dimanche 8 mars, je serai soit dans le train qui viendra d'Aix et qui arrive à 10h22 à la gare, soit à la gare à 10h22 pour ensuite déambuler jusque vers le Vieux-Port pour la journée des femmes. Voilà. Et maintenant, on va s'écouter une chanson de Boris Vian, interprétée par les frères Jacques, et qui s'appelle « Le tango interminable des perceurs de coffres-forts ». Allez, on s'écoute les frères Jacques.
Nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne, nous quatre dudules, le grand Victor et l'amnésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos cothurnes. Il y avait les outils, la pince monseigneur, chalumeau oxydrique. J'étais rencardé sur un boulon plutôt pépère. 3 kilos de diam', de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer de la figurine. On va prendre un gros coffre et lui percer le bide. On perce. Grand Victor prend la chignole, toi Dudu fais pas le mariole, cul la boucle ou bien sans ça. On perce. La musique à la courante, on va le mettre en 40. Ma parole, c'est bien détente, perverse. Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue avec un coup de pied dans le... Ça berce. J'allume au spétard, au tir, le coffre fort, il va souffrir. On va le mettre sans mollir, on perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre-fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. mais au coin de la rue,
v'là du nul qui s'écrit,
les mecs on est marrons.
Les poulets grouillaient comme un houdon un jour de foire. L'amnésique ému s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les poteaux ce soir on joue ouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cache referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. On perce. J'ai démonté mon plumard pour y prendre une petite barre. Et du matin jusqu'au soir, on perce. Dans la cellule à côté, l'amnésique en train de gratter. Il va bosser jusqu'à ce que ça traverse.
Le grand Victor, ce vieux feignon, reste sur son pieu tout le temps, à chanter le marché perçant.
Sa berce, spécialiste du boulot, si on a un petit peu de peau, sûr qu'on sera sorti bientôt, on perce. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y'a rien de plus dur que cette saloperie de béton. Nous quatre dudules, on peut pas dire qu'on soit des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme les marchands de gruyère, des trous dans du fronton. Et puis un beau jour, en limant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu soudain luire le beau blond. Vrai, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des gars honnêtes. Et ça, c'est bon. Attention, les poteaux, ce soir on met les voiles. Attachons bout à bout nos jolis draps de toile. C'est le moment de montrer qu'on est le roi du sport. On était bien soignés, mais on est mieux dehors. On perce. Grand Victor descend dernier, comme ça s'il fait tout casser. Nous autres, on sera passés. On perce. On a de la veine les amis, car tout le jour d'aujourd'hui, il tombait une de ces pluies averses.
Ça y est, nous voilà sauvés, mais maintenant il faut foncer, y'a un job à préparer.
Commerce. Pendant que j'étais au mitard, j'ai monté un coup ma star, et demain soir sans retard, on perce.
Alors
eh ben, pour finir en beauté, voici notre traditionnelle devinette. Alors, qui a dit, en parlant des banques, je cite, « Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. »
Pour une fois que j'ai le droit de dire « ce ne serait pas notre bon président François pendant sa campagne électorale en 2012, quand il disait « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance !»
Tu n'y es pas, bella ragazza, non. Ce n'est pas notre ami Flambidi Bob l'éponge, pas plus que son ministre des Finances Michel Sapin, qui lui déclarait en juillet 2014 à Aix-en-Provence, je cite « Notre ami, c'est la finance, la bonne finance. » Allez, vaille, je te laisse encore une chance.
Ah, alors peut-être celui que l'on nomme dans les milieux d'affaires le Mozart de la finance, le chouchou du MEDEF, l'ex-dirigeant de la Banque Rothschild, notre jeune, beau et fringant ministre de l'économie, Emmanuel Macron.
C'est vrai qu'il est beau, quoi. Eh bien, non, je vais tout te dire. Il s'agit d'Henry Ford, celui-là même qui a fondé les automobiles Ford. Mais je pourrais aussi bien te citer Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, qui nous disait « Celui qui contrôle l'argent de la nation contrôle la nation ». Eh ben voilà, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. Cette émission sera rediffusée le mardi 17 février de 14h à 14h45. Et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 12 mars à 15h. On parlera probablement du Forum Social Mondial qui se tiendra à Tunis du 24 au 28 mars, donc le mois prochain. Pour nous contacter, une seule adresse, accueil.marseille@attaque.org. Merci Christine, à bientôt. Merci Christine.
Mais merci Hervé. Hein.
«
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.